Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Souvent, ce sont des survivantes de viols, des militaires ou des accidentés, des personnes par définition traumatisées, qui sont victimes de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. La perte totale de souvenirs est alors un mécanisme de protection du cerveau, submergé par des émotions trop extrêmes. Dans un genre très différent, il y a aussi ces blackouts temporaires des fêtards qui suivent des soirées trop arrosées, comme c'est peut-être votre cas aujourd'hui, même si je ne vous le souhaite pas. C'est d'ailleurs la défense du comédien Nicolas Bedos qui dit avoir tout oublié des agressions sexuelles qu'il est accusé d'avoir commises et pour lesquelles, je précise, il est encore présumé innocent. Il dit en effet avoir tout oublié, le trou noir absolu, mais par contre il n'a pas oublié qu'il est innocent, ironise le média en ligne Mediapart. D'autres cas d'amnésie, enfin plus documentés, sont aussi abondamment décrits à la suite des concerts de Taylor Swift. Certains fans se réveillent au lendemain de ces méga shows qu'ils et elles attendent parfois depuis des mois, voire des années, sans le moindre souvenir de cette soirée historique. Le magazine Elle convoque un psychiatre au Jersey Shore University Medical Center pour expliquer ainsi le phénomène. Le trop-plein d'excitation est vécu par le cerveau comme du stress et cela impacte sa capacité à encoder les souvenirs. Tout de suite dans les pieds sur terre, on vous parle donc d'amnésie avec une histoire d'amour et d'amnésie et tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Je m'appelle Nora Telouni, j'ai 37 ans, je vis à Genève en Suisse. Je suis photographe pour un quotidien suisse qui s'appelle Le Temps. Alors j'ai rencontré Youssef en 2017. Il faisait un concert pas très loin de chez moi. Il fait de la musique algérienne et on a sympathisé à la fin du concert. On s'est échangé nos numéros et 2-3 jours après, je devais commencer un projet. Je faisais un workshop de photo dans le cadre de mes études. Un projet sur une thématique que je traitais déjà depuis un moment, qui est la question de l'immigration et de l'exil. Et donc, je lui ai demandé d'être mon modèle, enfin de photographier pendant plusieurs jours pour raconter un peu sa vie. Sachant qu'il arrivait d'Algérie, il venait s'installer en Suisse depuis, je crois, 6 mois, 1 an. Alors il me dit « Oui, je travaille au bateau demain, si tu veux venir faire des photos au bateau ». Et là, tout d'un coup, j'avais un peu une image de de l'immigré algérien, musicien, qui travaille sur un bateau. Et je me suis dit « J'ai une histoire super à raconter ». Et voilà, enfin c'est plus ça à la base qui m'avait attirée. Donc je l'ai suivi pendant une semaine chez lui, sur son lieu de travail, lors de ses répétitions de musique, de ses concerts. Enfin, j'ai fait une sorte de mini-reportage sur lui. Et puis en fait, à force de le photographier, à force d'essayer de trouver le bon angle, la bonne lumière qui tombait sur son visage, de retoucher aussi les images, enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, de passer tout ce temps à le regarder, quoi. Enfin, c'est quelqu'un... hyper généreux en fait, et d'une gentillesse à un peu presque une sorte d'innocence en fait, et assez romantique. Et je me suis sentie en confiance et en sécurité immédiatement. Donc on a été tout de suite très amoureux, et puis je sais pas, au bout de 3 semaines, 1 mois, on était ensemble. Voilà, ça s'est fait assez vite et naturellement. Enfin, genre au bout d'une semaine, il avait les clés de chez moi. On était tous les jours ensemble, mais on a eu 2 mois ensemble. Et puis après, y a eu l'accident, quoi. Je me souviens que c'était un mardi. On avait dormi ensemble le lundi soir. Le mardi matin, on s'est réveillé, on s'est dit bonne journée à ce soir. Et en fait, le soir, moi, je buvais un verre avec une copine et je lui ai écrit un message dans la soirée en mode je finis dans 1 heure ou 2, on peut se retrouver. Là, j'ai pas de réponse. Au début, je m'inquiète pas. Et puis quand même, au bout de 2-3 heures, je me dis bon, c'est un peu bizarre quand même. Et là, je reçois le coup de fil d'un de ses meilleurs amis, qui vient aussi de Sétif, donc de la même ville que lui en Algérie, et qui me dit Youssef a eu un accident de vélo, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il a eu un accident, il est à l'hôpital. Donc, je pars à l'hôpital direct avec ma copine qui m'accompagne. Et j'arrive aux urgences, en fait. Et je dis, voilà, je viens voir Youssef Kasmi, il a eu un accident de vélo, il est là. Et l'infirmière fait sa recherche et elle revient vers moi avec une tête d'enterrement. Et elle me dit, je suis désolée, je sais pas ce qui est arrivé à votre ami, mais il est aux soins intensifs, en réanimation. Donc là, dans ma tête, je me dis, ok, ça, c'est sûr que c'est très très grave. Bref, je vais aux soins intensifs et au bout d'un moment, les médecins viennent nous parler, donc les neurochirurgiens, les infirmiers, etc. Et ils nous disent qu'il a eu un trauma crânien sévère, une fracture du crâne, hémorragie interne, qu'ils ont dû l'opérer, faire une neurochirurgie, mais qu'ils sont plutôt optimistes parce qu'ils ont pu arrêter l'hémorragie rapidement et qu'il est encore jeune et qu'a priori, il va bien s'en remettre, quoi. Là, on a quand même pu aller le voir dans sa chambre. Donc, Youssef était dans le coma artificiel en attendant qu'il récupère un peu et qu'il puisse le réveiller. Et c'était trop bizarre parce que il avait une tête d'enfant, quoi. Il y avait quelque chose dans son visage et dans ses yeux et même dans son attitude qui ressemblait vraiment à un enfant. C'est comme s'il avait régressé, quoi. Plus l'énorme cicatrice sur la tête, il avait 52 agrafes. Donc, oui, c'était assez impressionnant. Et ce truc de l'âge qui paraissait si jeune, c'était très bizarre, quoi. Ouais. Donc, là, il est resté 6 jours dans le coma artificiel. Moi, j'allais le voir tous les jours à l'hôpital. Les médecins le réveillaient toutes les 2 heures pour vérifier qu'il y avait toujours une activité cérébrale et puis voir aussi si simplement il pouvait le sortir du coma, quoi. Et en fait, à chaque réveil, en fait, il était simplement hyper agité. Quand on essayait de lui parler, il n'entendait pas. En tout cas, il réagissait pas. Il y avait pas de communication possible, quoi. Même pas. C'est-à-dire que même si on lui parlait, il tournait même pas la tête. Il nous voyait pas. Et il essayait simplement de s'arracher les tuyaux. Donc, il fallait le rendormir. Quand on l'a réveillé, c'est un ami à lui qui était là-bas et qui m'a donc tout de suite appelé. Moi, j'étais en train d'aller à l'hôpital et il m'appelle, il me dit « Nora, c'est bon, il est réveillé ». Et moi, je me dis « mais en fait, j'y crois pas, quoi ». Enfin, c'était un énorme soulagement et avec aussi un peu l'appréhension de « ok, il était réveillé, mais dans quel état ?». Donc, j'arrive à l'hôpital. À ce moment-là, ça faisait 2 heures qu'il était sorti du coma artificiel. Je rentre dans la chambre. Et il me regarde, il est resté le regard fixe sur moi, et moi je me suis déplacée autour du lit et il m'a suivi du regard en fait. Et donc ça a été pour moi le premier contact, c'était la première fois où je me suis dit « ah, il est en train de revenir ». Parce que jusque là je désespérais un peu, je me disais « mais il va jamais revenir à lui en fait, on l'a perdu quoi ». Bon, il parlait pas hein. Mais il me regarde et moi je m'approche de lui et il me fait un geste, enfin il s'avance vers moi pour m'embrasser. Hyper naturellement, enfin comme s'il n'y avait jamais rien eu, enfin comme si on était le mardi soir, le soir on devait se retrouver après mon verre avec ma copine quoi. Donc il y a eu ce bref moment presque naturel, ce bisou pour me dire bonjour. Puis après il était de nouveau complètement dans les choux en fait, enfin il savait... où il était, il savait pas qui j'étais, il savait rien, il arrivait pas à parler. Il était à la ramasse, quoi. Enfin. Donc les médecins, ils essaient tout de suite de retrouver un contact et on se rend compte que c'est pas possible parce que déjà on lui parlait et comprenait pas vraiment ce qu'on disait. Lui-même, il essayait de dire des choses, mais on comprenait absolument rien de ce qu'il disait. Il parlait essentiellement d'ailleurs en arabe, il parlait plus trop français. Et en fait, il disait simplement des mots qui n'avaient aucun sens, quoi. Donc, on ne pouvait pas communiquer avec lui. Et puis quand petit à petit, il a commencé à comprendre un petit peu ce qu'on lui disait, par exemple, les médecins lui demandaient « Comment vous appelez monsieur ?» Bon, il a bugué un peu, il a réfléchi, puis il a fait « Karim ?» Genre en mode « J'essaye un truc, quoi. » Puis comme, je pense comme il entendait souvent le nom Karim, vu que son frère venait le voir régulièrement, parce que c'est le nom de son frère, Karim, il a dit « Karim ?» Puis on disait « Ben non, en fait, vous appelez Youssef ?»« Ah bon ?» Ça lui passait complètement au-dessus, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de conscience, mais en plus, quand on lui demandait « On est où ?», il répondait « Constantine ». Systématiquement, Constantine, qui est une ville en Algérie, pas très loin de sa ville d'origine à lui. Donc, il était persuadé qu'on était en Algérie, quoi. Donc, il voyait ses potes algériens qui étaient là tous les jours. Moi, il avait décidé que j'étais aussi algérienne et que je venais de Chelrom. Donc, voilà, il était dans son petit univers algérien. Chelrom, c'est une ville où il a passé parfois des vacances quand il était enfant, parce qu'il y a une partie de sa famille qui est là-bas. Il avait complètement oublié qu'on était en Suisse. Et quand on lui parlait de la Suisse, il comprenait pas de quoi on lui parlait. Donc, on avait appelé sa mère, qui était en Algérie, pour qu'ils puissent se parler. Et en fait, il n'avait même pas reconnu sa mère au téléphone. Bon, je ne le vivais pas très très bien. Enfin, c'était une période hyper difficile pour plein de raisons. La raison principale, c'était plutôt de l'incertitude qu'il retrouve, lui, son identité, en fait. Il, à ce moment-là, il avait 26, 27 ans. Enfin, il était vraiment tout jeune. Et je me disais, mais c'est trop injuste que sa vie soit détruite maintenant. Faut lui donner une chance qu'il puisse retrouver sa vie. Et une des choses que j'ai faites, c'était de, effectivement, rentrer un peu dans son univers, de pas essayer de le corriger. Et donc, c'était comme un pays imaginaire, quelque part, dans lequel j'avais une place pour Youssef. Et de me dire, OK, ben, du coup, c'est quoi ma place dans ce pays? Alors après, c'était des discussions qui avaient un peu ni queue ni tête. C'était tout d'un coup, il me racontait qu'il travaillait sur un bateau à Annaba. Annaba, c'est une ville côtière en Algérie. Donc là, je pense qu'il avait mélangé le bateau où il travaillait à Genève et qu'il l'avait amené à Annaba, quoi. Et donc je lui disais, ah, mais tu fais quoi sur le bateau? Tu travailles avec qui? Et tu vis où? Et il me disait, ah, non, je vis à Chelrom et je vais à Annaba juste pour le travail. Je fais, ah, je dis, ah, mais alors tu fais les trajets tous les jours. Enfin, voilà, je rentrais vraiment dans son histoire. Et petit à petit, parfois, j'ai essayé de ramener un petit peu d'éléments plus réels. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait que le temps, en fait, qui pouvait le faire revenir. Des fois, les gens lui demandaient c'est qui, elle, machin. Puis alors, il répondait des trucs. Un jour, j'étais l'infirmière. Un jour, j'étais la sœur. Un jour, quand on lui posait la question qu'il devait mettre un mot... il n'était pas capable de dire, mais dans les gestes, il me prenait la main, il m'embrassait, il me serrait dans les bras. Enfin, il était hyper affectueux avec moi. Enfin, il avait l'air amoureux, en fait. Mais pour autant, il ne savait pas qui j'étais, quoi. Un jour, je lui ai montré des photos de chez moi. Et il a reconnu l'appartement, mais il l'a reconnu hyper bien. Il m'a dit « Ah bah oui, je connais cet appartement ». Il m'a décrit l'appartement, il m'a dit qu'il y avait des cactus et qu'il m'a parlé du garage à vélo. Enfin, il se rappelait hyper bien, même du quartier et tout, quoi. Et il me dit « Je me souviens parce que j'allais souvent voir une fille dans cet appartement et c'était trop bien, on était trop bien et on passait beaucoup de temps là-bas ensemble et c'était tellement bien des fois qu'on sortait pas ». On ressortait pas, on restait dans l'appartement tous les deux et tout. Et puis je dis, mais cette fille, c'est qui Ah, je me souviens pas. Il se souvient de tous les détails, il se souvient de combien il y avait de cactus dans l'appartement, mais il se souvient pas de la fille qui habitait dans l'appartement, quoi. Et donc, j'insiste un tout petit peu, je dis, mais tu te souviens vraiment pas d'elle? Est-ce que tu te souviens au moins, je sais pas, si elle était blonde ou brune, ou un détail, un truc, tu vois? Ah non, non, aucune idée, mais vraiment aucune idée, quoi. Et donc, je tente un dernier truc. Je dis, mais la fille de cet appartement, là, dont tu ne te souviens pas, elle s'appelle Nora. Et il me regarde avec un air, mais vraiment genre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle fait, ah non, non, je crois pas. Non, non, ça me dit rien du tout. Et je me dis, bon, eh ben, tant pis. Essayez pas plus. Ça, c'est évidemment un peu des coups durs, quoi. Je me dis, bon, c'est toujours pas. Et le lendemain, je lui remontre des photos de l'appartement. Et il me dit, ah, c'est chez toi. Ah, je me souviens, c'est chez toi, c'est ton appartement. Et donc, en fait, en 24 heures, il avait refait le lien entre passé et présent, quoi. Mais c'était la première fois où il y avait comme un pont entre la Nora de l'appartement et la Nora d'aujourd'hui, je crois. Ses souvenirs sont revenus de manière chronologique, à peu près. Donc, il s'est d'abord souvenu de l'Algérie, de son enfance, de ses parents ou de ses amis d'enfance. Voilà, et la Suisse est revenue à la fin parce que ça faisait seulement un an qu'il était là. Et en fait, il avait besoin de revoir les choses et de revivre les choses pour vraiment s'en souvenir. Et donc, en sortant de l'hôpital et en revoyant Genève, et enfin, c'est là aussi que les choses, elles se sont vraiment réimprimées, je pense. Et donc, il est sorti de l'hôpital, il est venu habiter chez moi. On a été comme un peu parachutés, comme dans une situation extrême où finalement le couple, il est un peu passé. Enfin, le couple au sens d'une rencontre quand même assez récente où on se découvre, où ça se fait tranquillement, on apprend à se connaître, où c'est léger, où on part en vacances. Et puis, ouais, on n'a pas eu ça. On a tous été dans une réalité hyper dure et à devoir gérer sa santé. Et ça s'est fait très progressivement et ça se faisait un peu par étapes, par paliers, mais aussi avec parfois des retours en arrière. Où tout d'un coup, j'avais l'impression qu'on avait passé un cap et puis le lendemain, il était de nouveau plus vraiment là. Enfin, ça oscillait quand même pas mal entre il se rappelle pas vraiment, on est connecté, on n'est pas connecté. Effectivement, il y avait tout d'un coup des sortes de moments comme ça, comme des petits éclats où c'est de nouveau le Youssef que j'ai connu, où c'est... Avant son accident, ça arrivait souvent que je lui dise... comme une expression, je disais « mais t'es fou ». Et il me répondait toujours « oui, fou de toi ». Et plusieurs mois après l'accident, même quand il se rappelait de qui j'étais, etc., quand je lui disais « t'es fou », il me répondait « rien ». Où il me disait, mais non, je suis pas fou. Et un jour, mais je pense 4-5 mois après, hein, il m'a ressorti cette phrase, oui, fou de toi. Et là, ça m'a fait un truc, mais je pense que j'ai dû pleurer d'ailleurs. Et donc voilà, je me suis dit, c'est bon, on est de nouveau complices, quoi. En 2019, on est allé en Algérie ensemble. Tout d'un coup, j'étais hyper curieuse quoi, de voir ce que c'était cette Algérie où il a pensé qu'il était et où j'avais fait semblant de croire qu'on y était. Enfin, et un des trucs que j'ai eu envie de faire, c'était d'aller voir Chelrom, ma ville d'origine. J'avais vraiment envie de comprendre, enfin, de voir cette ville où il avait pensé qu'on s'était rencontrés. Et d'aller là-bas, c'était aussi une manière peut-être de comprendre... ce qu'il avait vu et ce qu'il avait imaginé pendant cette période où on évoluait dans des réalités complètement différentes, lui et moi. Et c'était une manière aussi de reconnecter avec cette partie-là qui m'avait complètement échappée, en fait.
Je m'appelle Youssef, j'ai 33 ans, je suis algérien, j'ai grandi en Algérie. Jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai quitté l'Algérie. C'est ma vie artistique qui m'a mené à Genève. J'ai créé un groupe musical et j'ai commencé à travailler à une association qui s'appelle Bateau Genève. C'est un bateau qui est au bord du lac Léman. Et c'est une association qui accueille les personnes démunies ou des SDF le matin pour un petit déjeuner dans le bateau. Du coup, je faisais partie de l'équipe là-bas qui s'occupait de ces personnes. Je me rappelle très bien de ma rencontre avec Nora. C'était le 1er septembre 2017, lors d'une soirée concert que je faisais avec mon groupe. Et puis après le concert, on a fait connaissance. Elle est issue d'origine syrienne. suisse, donc la partie syrienne me posait des questions quand même. Comment elle a passé son enfance, etc. Et puis, la beauté, et puis, j'étais attiré, en tout cas. C'était comme un coup de foudre, on peut dire. C'était intense au début, en tout cas, je dormais chez elle. Donc, on passait la soirée réveillée, bien sûr. Bah, il y avait plein de trucs à raconter, il y avait plein de trucs à découvrir sur ma vie, sur sa vie. Du coup, sans se rendre compte, bah, il était déjà 6h du matin, je travaillais à 7h30. Donc, j'avais le temps de dormir à peine une heure. Voilà. Et puis, ce jour-là, donc le 27 novembre, mon vélo avait un problème avec le frein. Un ami avait aussi un vélo, mais c'était un vélo différent que le mien. J'ai demandé à qu'il m'en prête pour que j'aille au travail demain, le temps que je répare mon vélo. Il était d'accord. Donc j'ai utilisé le vélo, je suis allé au travail. Et c'est là que le drame s'est passé. Pour me rendre au travail, je devais passer par des rails de tram. Et là, le vélo, bah, l'ancien, il rentrait pas dans les rails de tram. Et celui-là, comme il avait des petits roues, c'était un vélo de course. Le vélo est rentré dans les rails de tram. J'ai perdu contrôle et je suis tombé. J'ai des souvenirs jusqu'à quand j'ai pris le vélo. En tout cas, je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai fait l'accident, comment je suis tombé sur ma tête, sur mon épaule. En tout cas, tout ça, j'ai perdu. Après, j'étais aux soins intensifs, j'ai eu une semaine de coma artificiel. C'était une lumière un peu bizarre, j'ouvrais les yeux comme ça, pour voir. C'était plein de tuyaux, des appareils, du sang un peu. Je me rappelais de rien. Après, j'ai changé de soins intensifs, je suis parti dans une autre chambre. Dans cette chambre-là, j'étais attaché avec une ceinture. Et c'était terrible pour moi, je me réveille. Et j'ouvre les yeux et je vois les gens qui rentraient en fait en blouse. Rentrer, sortir, et puis la nuit, donc, automatiquement, ils éteignent la lumière pour qu'on puisse dormir. Et puis moi, j'essaie de fuir, parce que je me sens un peu comme en danger, comme s'ils allaient venir vers moi pour me voler mes organes. Donc j'avais vraiment peur. J'essayais de ne pas faire du bruit, essayer de fuir, d'ouvrir un peu avec quoi ils m'ont attaché. En tout cas, c'était vraiment terrible. Ensuite, ils m'ont déplacé parce que mon état s'améliorait. C'est là que les souvenirs ont commencé à réapparaître. Cette troisième chambre, je me rappelle en tout cas de l'arrivée de mon ami d'enfance. Et je me rappelle aussi de mon demi-frère. Karim, il était là. Et je me rappelle qu'il était un peu fâché quand je dis pas « on est à Genève, mais on est à Chalrome ». Le lien qui me faisait penser à Chalrome, c'est quand j'ai eu un accident. J'avais 22 ans, j'ai eu un accident avec ma grand-mère à cet endroit-là. Donc elle est décédée sur le moment. Je me suis senti un peu fragile, je me suis senti un peu fautif parce que je l'ai pris avec moi et puis je l'ai perdu avec moi. Donc je conduisais, donc c'est une responsabilité quand même. Et j'étais hospitalisé à Constantine et à Chalrome. C'était ma dernière hospitalisation, c'est pour ça que je répondais toujours que j'étais à Constantine. C'est les dernières images qui me restaient dans le cerveau. Après, je me rappelle qu'il y avait une fille inconnue qui venait me voir, ou je gardais pas des souvenirs, en fait, en lien avec elle. Et à l'intérieur de moi, quand même, je sentais que c'était une personne assez importante pour moi. Jusqu'à un jour, comme ça, je me suis réveillé, et puis je me rappelle qu'elle est venue. Avec un sac, elle a posé son sac, avec une veste, elle a enlevé sa veste, etc. On a commencé à parler, et puis c'était comme si je la connaissais. Je l'ai jamais oublié, c'est comme si un jour elle est rentrée et voilà, c'est Nora et puis voilà, point. Après que j'ai récupéré ma mémoire, j'ai quitté l'hôpital de rééducation. Là, j'étais face à la réalité, donc tout était nouveau pour moi. Des escaliers, comment ouvrir la porte, comment ouvrir le robinet, comment que ça soit cuisiné, repasser, des trucs comme ça de base, j'avais oublié. Et puis à chaque fois que je touchais à quelque chose, à chaque fois que je voyais quelque chose, je risque de faire des dégâts, je sais pas, d'utiliser la cuisine, de cuisiner, de Je me rappelle qu'une casserole, c'est utilisé pour faire des pâtes. Après, comment faut faire pour programmer ça et faire petit à petit, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai tout réappris, ouais. Comme si j'étais un nouveau bébé qui pouvait marcher, qui était responsable directement de vivre sa vie dans une ville assez stressante. Donc aussi, quand je voyais du monde, quand il y a du bruit, donc je perds la concentration, j'essaie de me rappeler comment il faut faire pour prendre le bus, etc. Donc c'était tellement fatigant pour moi, et puis aussi c'était difficile aussi psychologiquement, c'est que ça me mène vers la défaite. J'arrive pas à réaliser certains trucs qui sont basiques, cela me retombait un peu sur le moral. Parfois, la nuit avant de dormir, moi j'étais un peu toujours fatigué à cause de tout ce que j'ai pu découvrir. J'étais quand même triste, comment ça va se passer, si j'ai perdu vraiment des petits détails comme ça, comment je vais faire pour continuer ma vie. Et je combattais avec ça, tout ça. Ça a changé aussi quelque chose avec ma relation avec Nora. C'est que j'ai senti qu'elle m'a beaucoup soutenu après ma sortie de l'hôpital. Et quand j'ai récupéré mes forces, c'était à moi de la soutenir parce qu'elle avait trop donné. J'ai essayé d'être plus là pour elle, pour essayer de faire en sorte qu'elle réussisse un peu plus sa carrière professionnelle, ou en tout cas dans sa vie, ou que ce soit l'idée de cuisiner, de nettoyer, ou de laver en tout cas les habits. J'étais un peu plus présent de ce côté-là, parce que c'est elle qui a vécu en fait, les moments en fait, difficiles, au final. Moi, j'étais à l'hôpital, je ne me rappelle pas. Donc j'ai essayé de prouver aussi que j'étais fort maintenant, c'est bon, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Donc tout ce que j'ai gardé comme souvenir, c'était, elle m'a soutenu du début jusqu'à la fin, donc mon amour envers elle, ça faisait que grandir. Donc tout cela, c'est un drame, c'est quelque chose de grave qui s'est passé, mais d'un autre côté, ça a nourri notre amour ensemble, parce que on avait seulement 2 mois ensemble avant que j'ai mon accident. Après, dans les 2 mois, on n'a pas réussi à complètement se connaître. Donc l'accident, il nous a réunis, il a renforcé notre amour.
C'était une histoire d'amour et d'amnésie avec tous les vœux de l'équipe des Pieds sur Terre et les miens en particulier pour cette nouvelle année 2025. Un reportage de Carole Bailly réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Nora, Youssef et à Eva, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien.